Et voilà, c'est le moment de retrouver notre émission. C'est la deuxième émission avec Ronald Bustamante sur cette antenne. Donc je vous laisse, bonjour, vous présenter à nouveau à nos auditeurs.
Bonjour Dil, merci, merci beaucoup pour cette possibilité de passer sur l'antenne de Fréquence Mistral. Comme je l'ai signalé la dernière fois, je suis membre de cette association Amérique latine pour la culture et les libertés fondamentales qui a eu son origine ici à Digne-les-Bains, à l'époque il s'appelait Casa Latina. Mais bon, ça a évolué. Et c'est vrai qu'on met surtout l'accent sur la question des libertés fondamentales. Et aujourd'hui, on va parler, parce que ça va être la continuation de ce qu'on a parlé la dernière fois.
Sur la situation au Pérou,
actuellement. Sur la situation au Pérou, puisqu'il y a une tension qui dure depuis le coup d'État, un coup d'État bien légalisé, entre guillemets, au président de l'époque, et qui a mis à la présidence l'actuel président représente plutôt les intérêts de l'ultra-droite du Pérou, qui eux-mêmes, ils ont ouvert le pays à la disposition des grands investissements miniers, parce que le Pérou est très, très riche en ressources naturelles, et en particulier de l'or, du cuivre, dans lesquels ils font beaucoup d'affaires ces grosses entreprises. Bien, la continuation de cette lutte, c'est que le peuple demande la démission de la présidente de la République. Il demande aussi la fermeture du Congrès et surtout, la principale demande, c'est une nouvelle constitution. Parce que la constitution qui a été imposée en 1993 jusqu'à maintenant, ça a été une suite des piétinements des droits fondamentaux, des libertés d'association, d'organisation. Tout a été criminalisé sous le titre de terrorisme. Et puis, ils ont donné les portes ouvertes à tout un tas d'investissements dans les mines, le pétrole, les portes ouvertes aussi aux sociétés agro-exportatrices, au déboisement de l'Amazonie. Et ce qui a fait que le Pérou affiche une croissance assez importante depuis 1993. Pour les économistes, c'est quelque chose de positif, quelque chose. Ils regardent le PBI, la croissance du PBI, ils disent il y a une économie, le pays décolle, le pays progresse, c'est du progrès, du bénéfice pour la nation. Alors que cette vue est axée surtout sur les investissements et les profits qui sortent. Les capitaux, surtout internationaux, mais pas sur la population. Parce que bien qu'il y a cette croissance du PBI, je crois que pour 2022, la croissance a été signalée à 2%, 2 à 3% de la croissance du PBI, la situation de la population et une situation de pauvreté, de misère. L'État ne s'occupe plus de soutenir la santé, l'éducation, les infrastructures et tout ça. Mais le plus dangereux, c'est la question des dégâts qui causent ces investissements miniers. Parce que les mines sont sous des territoires, sous les sous-sols, alors que le sol est occupé par les paysans, par des petits, surtout la petite agriculture. Alors, ils font des travaux, des mines à ciel ouvert. Ils délogent les paysans de leur territoire, avec l'appui de l'État, bien sûr, parce que si la population résiste, il y a la police, il y a l'armée, et avec tous les blessés, tous les morts qui ont suivi tous ces 30 ans. Et puis, pas fidèle, l'État n'est pas fidèle aux engagements qu'il a pris au niveau international. Concrètement, la Convention 169 de la OIT, de l'Organisation internationale du travail, qui demande les consentements préalables s'il y a un investissement minier sur un territoire, et là, sur ces territoires, il y a des paysans, il y a des communautés et des peuples, même des peuples originaires, il faut que le peuple soit consulté sur ce type d'investissement pour que le peuple puisse donner ou non son accord à cette exploitation. Alors, c'est un engagement qui est parti des obligations au niveau international de l'État, mais qui fait table rase, c'est-à-dire que c'est jamais, il applique jamais. Alors, est-ce que les mines, c'est vraiment du bénéfice pour les investissements miniers? Oui. Mais pour la population, qu'est-ce qui entraîne, à part déloger, de sortir la population du territoire? Ces mines, quand ils travaillent, ils font. La première chose, c'est qu'ils prennent de l'eau, les sources d'eau. Ils prennent même les domaines des lacs, des petits lacs, des lacs d'altitude sur lesquels la population agricole, les paysans, ils avaient la source, tant pour boire, pour l'agriculture et pour les animaux. Alors, quand ils prennent les eaux à la source, les mines, ils utilisent, après avoir extrait la roche du sous-sol, pour avoir un concentré de ce qui les intéresse, soit les cuivres, soit l'or, l'argent, les zinc, etc. Ils utilisent cette eau dans des bacs pour faire les concentrés qu'ensuite il va être exporté. Et ce qui reste est plein de produits chimiques et reversé à nouveau dans
l'agriculture,
dans les rivières, dans les lacs, et ce qui fait une contamination constante, sans arrêt. Et la population, à cause de ça, ça fait des années qu'ils luttent. Et on leur dit, bon, ça c'est la Constitution, la loi est comme ça, et on ne peut rien faire. C'est pour ça que cette demande d'une nouvelle Constitution a grandi depuis des années. Et il y a eu des répressions, il y a eu des luttes. Avant, c'était concentré sur un territoire, une province, etc. Mais cette fois-ci, il y a eu une mobilisation
générale, nationale.
C'est vrai que après qu'ils ont destitué M. Pedro Castillo, l'ancien président de la République, qui aujourd'hui est en prison, et qui est emprisonné de façon illégale, parce que dans la Constitution, dans les lois actuelles, il y a une possibilité de destituer un président par le Parlement, mais il faut des conditions. Et ces conditions pour la destitution de M. Castillo n'ont pas été accomplies. Et ces avocats, en ce moment, ils ont une lutte légale, mais face à la Cour interaméricaine internationale, et dans laquelle ils démontrent clairement que la destitution des présidents est complètement illégale et qu'elle même a été préparée à l'avance. Non? Donc, la demande, et si M. Pedro Castillo, un homme du peuple, le premier président issu des couches populaires, un ancien instituteur qui a été élu président, c'est parce qu'il prenait dans son programme en premier lieu une nouvelle constitution. Il a fait un gouvernement d'un an et demi et il n'a pas réussi parce que du premier jour, la majorité parlementaire faisait opposition à toutes les mesures que M. Castillo pouvait envoyer au Parlement pour l'approbation. Donc, la situation fait que, après son coup d'État, les gens, les peuples se sont dit une nouvelle fois la possibilité d'un changement réel dans l'économie, le respect de nos droits s'est mis par terre. Donc, il y a eu des mobilisations assez fortes, que je parlais la dernière fois ici à l'antenne. Et que, bien sûr, après 3 mois, il y a eu une baisse des mobilisations, sauf dans le sud. Et il s'avère que c'est ma région d'origine, la région de Puno, la région de l'Altiplano, la région Quechua Aymara, la frontière avec la Bolivie, là où il y a les lacs Titicaca, les communautés, parce que c'est là que les communautés sont en lutte pour le respect des ressources naturelles. Et en plus, c'est dans cette région qu'il y a le lithium et il y a l'uranium. Et comme la question d'énergie, ça se pose au niveau mondial de façon très claire, très flagrante, et le lithium, l'électrification des voitures, il y a une tendance assez forte, donc le lithium devient important. Et l'État a déjà fait la concession, sans consulter la population, aux communautés, parce qu'il se trouve que le lithium est dans la région, une région paysanne, une région quechua, des communautés qui a gardé cet esprit collectif qu'ils ont eu toujours. Donc, il y a eu des accords parce que les communautés du nord et du sud de la région se sont coordonnées pour dire qu'il ne sortira pas un seul kilo de lithium de la population si ce n'est pas industrialisé à la région et si ce n'est pas au profit de la population régionale et nationale. Et s'il n'y a pas de respect dans cette exploitation, s'il n'y a pas de respect de la nature, de faire bien sûr, pour faire une exploitation minière qui respecte la nature, pour ne pas laisser toute la pollution, toute la contamination, il faut des investissements supplémentaires, ce qui en va aujourd'hui. Voilà une première partie de la situation.
Όλα μαζί και το καθένα χωριστά. Μοίρασε ολογυρά σας τα όνειρά μου πάνω στα βαθύ γάλαζα νερά. Σκέπασε βράχους και λιβάδια, μαγριολούλουδα και μυρωδικά. Σας πρίκησε με τουίλου τα χρυσάφια, απλά χωρίς στολίδια περιτά. Από το ίδιο το χώμα το δικό σας με έπλασε και μένα στοργικά. Για να κοιτώ την ομορφιά σας και να μαθαίνω από τη δική σας αρχοντιά. Με μέθησε τη ζεριγανής η αγκάλι, με σμίλεψαν με αλάτινο σφυρί. Χάραξε την τροχιά μου μες στη ζέστη, με τροχελίδων σκιά μοναχική. Το πόδι που τρίβεται στην πέτρα μαθαίνει της γης τα μυστικά. Από όλους τους καρπούς που μου προσφέρουν εγώ διαλέγω ένα κλαδί από ελιά. Γέμισε ο τόπος τσιτσίκια και τριζόνια και με ξυπνούν από τον ύπνο το βαθύ. Γιατί σας απαρνήθηκα νησιά μου και η νοσταλγία μου αδειάζει την ψυχή. Βράχου σκιά με προστατεύει, μου φανερώνει αλφάβητο κρυφό. Αρχαίο κλειδί η ομορφιά σας μου ξεκλειδώνει μονοπάτι φωτεινό. Τη ζεριγανή σιαγκάλη με σμίλεψαν με αλάτινο σφυρί. Άραξε την τροχιά μου μες στη ζέστη. Πετροχελίδων σκιά μοναχική. Με μέθησε τη ζεριγανή σιαγκάλη με σμίλεψαν με αλάτινο σφυρί. Άραξε την τροχιά μου μες στη ζέστη. Πετροχελίδων σκιά μοναχική. Έθισε τη ζερίγανη σιαντάλη, με σμίλεψαν μια λατινό σφυρί. Άραξε την τροχιά μου μες στη ζέστη, πετροχελίδων σκιά μοναχική. Έθισε τη ζερίγανη σιαντάλη, με σμίλεψαν μια λατινό σφυρί. Άραξε την τροχιά μου μες στη ζέστη, πετροχελίδων σκιά μοναχική. Σας έσπηρε νησιά μου όλα μαζί και το καθένα χωριστά. Μοίρασε ολογυρά σας τα όνειρά μου πάνω στα βαθύ γάλαζα νερά. Σκέπασε βράχους και λιβάδια, μαγριολούλουδα και μυρωδικά. Σας περίκησε με του ήλιου τα χρυσάφια, απλά χωρίς στολίδια περιτά. Από το ίδιο το χώμα το δικό σας με έπλασε και μένα στοργικά. Για να κοιτώ την ομορφιά σας και να μαθαίνω από τη δική σας αρχοντιά. Με μέθησε τη ζεριγανή σιαγκάλη, με σμίλεψαν με αλάτινο σφυρί. Χάραξε την τροχιά μου μες στη ζέστη, με τροχελίδων σκιά μοναχική. Απαρνήθηκα νησιά μου και η νοσταλγία μου αδειάζει την ψυχή. Βράχου σκιά με προστατεύει, μου φανερώνει αλφάβητο κρυφό. Αρχαίο κλειδί η ομορφιά σας μου ξεκλειδώνει μονοπάτι φωτεινό. Σαν με αλάτινο σφυρί. Άραξε την τροχιά μου μες στη ζέστη, πετροχελίδων σκιά μοναχική. Με μέθησε τη ζεριγανή σιαγκάλη, με σμίλεψαν με αλάτινο σφυρί.
On reprend avec Ronald Bustamante.
Merci Odile, très belle chanson. Et cette, pour continuer, je voudrais faire allusion au rapport qui a fait M. Pedro Arrojo Agudo. C'est un rapporteur spécial des Nations Unies et de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies dans la mission Pérou de décembre 2022, c'est-à-dire assez récent. Et parmi les éléments importants que je peux relever de son rapport, il signale qu'en effet, pour la question de l'eau, l'État met en priorité les sociétés minières et les sociétés agro-exportatrices. Il y a des régions dans lesquelles, par exemple, il y a un problème d'eau, des volumes d'eau, mais à la population, on donne l'eau, la population des villes, 4 heures, 5 heures par jour, tandis que les entreprises d'agro-exportation, ils sont à disposition 24 heures sur 24. Donc, quand il y a des restrictions, c'est à la population, mais pas aux entreprises agro-exportatrices. Et aussi, il signale que, par exemple, dans la ville de Cajamarca, c'est la ville au nord du Pérou, 70% de la population boit l'eau avec des eaux contaminées par l'entreprise Yanacocha Newmont. Cette entreprise, c'est une entreprise des États-Unis, une des plus grandes entreprises pour l'exploitation de l'or, et que seulement en une année, il sort autour de 80 tonnes d'or de la région. Et bien sûr, ça va. C'est pas pour rien que c'est une des grosses entreprises au niveau mondial. Mais la population, qu'est-ce qu'elle a? Une, ils ne profitent pas de cette richesse d'or qui est vendue très bon au prix du marché international. Et deux, c'est le pire, ils ont une sécheresse, ils ont desséché déjà des lacs d'altitude. Et puis, les produits chimiques qu'on appelle les relaves de cette exploitation d'or sont reversés dans l'eau courante. C'est pour ça qu'il dit, monsieur Arroyo Agudo, qu'il signale que 70% de la population boit cette eau qui provient et qui est contaminée déjà avec cette eau de mine.
C'est énorme. C'est énorme et forcément, c'est des maladies.
C'est énorme parce que ça, ils contiennent des métaux lourds qui vont dans l'eau, ils vont dans les sangs. Et pour signaler aussi que rien qu'en parlant du plomb dans les sangs, on aura des problèmes du foie, de façon certaine, des foies, de la rate, des reins, de la moelle osseuse et du système nerveux. Non? Et puis, ils signalent aussi, ça c'est des données du ministère de la Santé ici, des français, qui va contaminer de manière principale l'organe cible, c'est le système nerveux central. Donc, c'est presque un décret de contamination, de mort à moyen terme d'une quantité énorme de la population. Dans la région d'Espinal à Cusco, il y a eu aussi beaucoup de contaminations signalées, mais cette fois-ci, il y a eu des analyses très, très pointues qui ont montré les degrés de contamination et surtout des métaux lourds dans les sangs. Il y a des régions comme la ville de Cerro de Pasco, c'est en altitude au centre du pays, sur la cordillère des Andes, dans lesquelles la population est hyper contaminée. Donc, tout ça, parce qu'il y a une politique avec ces politiques néolibérales et cette constitution dans laquelle tout est pour les entreprises, alors qu'une véritable constitution doit être en premier lieu la santé et les bénéfices pour mettre en œuvre des mesures pour le développement de la société, de la personne humaine. Ce qui est signalé dans l'article premier de l'actuelle Constitution, dit l'article premier, le plus important, c'est la personne humaine. Mais cet article, presque pour la formule, parce que dans la réalité, c'est tout le contraire. C'est-à-dire, il n'y a pas d'application de cet article. Aussi, signale l'assèchement des lacs, la disparition d'espèces, la mort des poissons. Tout ça, c'est l'impact contaminant de ce type de production. Alors, la population continue au sud, comme je disais, la question du lithium et tout ça. Et avec cette force de mobilisation, l'État, craignant, parce qu'ils ont des postes de police dans les zones rurales, il a commencé à retirer les postes de police parce que ils craignent que la confrontation soit lourde. Et donc, il y a un espace de pouvoir, un vide de pouvoir que l'État a essayé de combler avec des bases militaires, c'est-à-dire ils ont militarisé la région. Mais comme il y a eu, en même temps, les interventions, parce qu'il y a eu des parlementaires du Parlement européen, il y a eu 3 parlementaires qui sont allés au Pérou, il y a eu aussi des parlementaires de l'Argentine qui sont allés au Pérou pour les droits de l'homme et tout ça. Il y a le président du Mexique qui s'est prononcé ouvertement en défense des droits de l'homme et des intérêts de la population péruvienne, alors que l'État a répondu que c'est une ingérence sur des affaires antérieures, c'est pas possible, ils ont riposté au président de la République, monsieur du Mexique. Lui, il a répondu que sur la question des droits de l'homme, on ne peut pas dire que c'est une ingérence aux affaires antérieures, parce que la question de la vie et la santé de la population, c'est très important. Et tout ça parce qu'il y a eu 70 morts, plus de 70 morts dans la répression. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis des années. La répression la plus forte qu'il y a eu, aussi parce que la population fait une protestation, protestait contre la démission, le Parlement avait limogé un président de la République à cause de ses intérêts, et posé à nouveau. Et ça, c'est en 2020. Il y a eu 2 morts. Mais cette fois-ci, il y a plus de 70 morts et des centaines et centaines de blessés. Et les blessés, ils sont en état, en une situation grave. Ici, je peux signaler qu'il y a les derniers blessés qui ont décédé. C'est Rosalino Flores, un jeune de 22 ans qui a été blessé à Cusco, dans la région de Cusco, et qui était hospitalisé, qui était soigné, mais il a décédé il y a 2 semaines. Et celui qui est décédé il y a 5-6 jours, c'est monsieur Manuel Quillaticona, à Juliaca, de la région de Puno. Juliaca, c'est un monsieur qui a 35 ans, qui a sa compagne, qui a une fille de 10 ans et une autre fille de 2 ans, et que lui, il était allé à Lima avec tout un groupe de gens de la région pour protester, parce que les gens de l'intérieur sont allés à Lima pour exprimer tous les désaccords avec cette politique. Et là, il était arrêté à Lima. Il a été arrêté au poste de police, il a souffert des tortures, des coups, Et donc, l'autopsie qu'il a eue, il montre qu'il y a eu des comment dire, coagules, des sang.
Des hématomes.
Des hématomes cérébrales qui, finalement, ont causé la mort. Donc, avec cette brutalité répressive, ils utilisent des armes de guerre, des armes qu'ils utilisent ici pour la répression, qui ont fait des aveugles, qui ont des amputations et tout ça. Tout ça, ils utilisent là-bas la police et l'armée. Et face à cette situation, la région du Sud s'est déclarée en lutte permanente. Et donc, ils font des grèves totales toutes les semaines, deux jours, avec l'accord des commerçants, des transportistes, etc. C'est la façon de protester, c'est tout faire des grèves totales, deux jours par semaine. Et bien qu'il y a l'armée fasse comme l'État aujourd'hui, la situation est sous les yeux de l'international, des autorités internationales. Et bien que ici en France, les journaux ils parlent presque jamais de la situation, mais au Pérou, ils savent très bien que le Parlement européen, qu'il y a une sénatrice espagnole aussi qui a ses pensées. Je mentionnais aussi Monsieur Lopez du Mexique. Le président de la Colombie, les parlementaires de l'Argentine. Et donc, ils savent que continuer à tuer, ça peut provoquer même une révolte plus forte au niveau national. Donc, et puis, un autre élément, qu'ils essayent de contrôler avec la peur, la crainte, que la population a peur avec tous ces sangs versés, et ils ne se mobilisent plus. Ce qu'ils répondent à la population, ils le répondent dans des chansons, dans des slogans, et c'est tout ça. La mort, les sangs qui a été versé, jamais sera oublié. Et puis, on n'a plus peur. Et la lutte continue. Et donc, il y a cette vie de pouvoir qui est remplie par les communautés paysannes, avec des façons de fonctionner qui datent des centaines d'années. Et donc, c'est une façon, une tension forte, et avec leurs objectifs. La démission de la présidente, la fermeture du Congrès, et surtout une assemblée constituante pour une nouvelle constitution. Et ils ont une façon de s'organiser qu'on ne voit pas des leaders, des dirigeants, dirigeantes, ici, là, parce que c'est ça que vous dites. Et quand il y a des prisonniers, la police, l'armée essayent de savoir qui dirige, qui sont les leaders. Parce que dans leur politique, couper la tête, c'est couper le mouvement. C'est-à-dire arrêter, tuer ceux qui dirigent. Mais c'est une organisation de façon telle que c'est d'en bas en haut, et ils savent, ils ont arrêté, ils ont torturé comme ces jeunes, ce monsieur qui vient de décéder. Mais le mouvement continue avec cette organisation ancestrale qui c'est une nouvelle façon de lutter pour ses objectifs. Et ils appellent le Sud aux autres régions qui se sont mobilisées au départ pour continuer la lutte pour le mois de juillet, parce que le mois de juillet, 28 juillet, c'est l'anniversaire national. Et faire une troisième mobilisation vers Lima pour ces trois objectifs. La démission de la présidente Boluarte, Dina Boluarte, la fermeture du Parlement actuel. Elle appelle à une assemblée constituante. Donc la situation est assez tendue. Et bon, je souhaite de tout cœur que cette situation, je vois que c'est positif, cette volonté de lutte, et pour ces objectifs. Une autre chose aussi, avant de finir, un autre élément, c'est que l'université, il y a plus d'un mois, il y a deux universités qui ont accueilli les gens de la population qui débarquaient à Lima, les gens de l'intérieur qui arrivaient à Lima pour exprimer une protestation. Et il fallait se loger, il fallait tout ça. Donc les étudiants de l'université San Marcos, qui c'est l'université la plus ancienne de l'Amérique latine, la plus vieille, une forte tradition, les étudiants, ils sont accueillis dans les campus universitaires, une partie de cette population. Et les étudiants de l'université d'ingénie à Lima, ils ont aussi fait la même chose. Alors, l'État était... il voulait réprimer ça. La présidente de l'université, du rectorat de l'université de San Marcos, a donné le feu vert à l'entrée de la police. Et la police est rentrée avec des chars, des voitures blindées, lourdes, déboussoler les portes, arrêter des centaines d'emprisonnés, accusés de terrorisme, tous de terrorisme. Et ils n'ont pas pu faire la même chose à l'université d'ingénierie, on dit la UNI, Université Nationale d'Ingénierie, parce que le recteur s'est opposé. Il dit, ici, on a une loi, il nous garantit, c'est l'autonomie universitaire qui interdisent l'entrée des forces de police, comme un domicile, on ne peut pas entrer comme ça. Donc, il se trouve que ces recteurs de l'Université de Génie à Lima, c'est un économiste d'un niveau scientifique assez, assez important. Donc, il a été invité à la région de Puno, au sud. Il a été invité par l'Université de la région, Université nationale de l'Altiplano. Entre parenthèses, c'est là où j'ai fait mes études. Et donc, il y a eu une convention entre les deux universités, plus les représentants des communautés paysannes qui sont en lutte. Et il y a sur YouTube, l'expo, c'était un cours magistral du président de l'université d'ingénierie, dans lequel il montre que la constitution est en dehors de ce que ça devrait être une constitution qui peut bénéficier le peuple. Que l'économie nationale, et c'est son métier, là, c'est un économiste, qui devait être appliqué ou conçu pour le profit de la société, de la société péruvienne, ça marche à l'envers parce que c'est conçu pour le profit individuel, pour le profit des entreprises au dégât des intérêts nationaux. Et donc, ils soutiennent l'exploitation du lithium. Ils soutiennent l'exploitation du lithium avec... pour bénéficier la population, ce qui demande aussi les communautés, c'est un point de rencontre, et que cette exploitation soit respectueuse et donc applique tous les moyens pour la préservation de la nature, qu'elle ne soit pas pour monter plus de dégâts dans les ressources. Et donc, accuser des terroristes, c'est... À ce recteur, ça va être très difficile pour la droite, pour l'ultra-droite et les forces armées qui sont à la tête de cette répression. Voilà, donc j'exprime mon souhait, ma solidarité, la solidarité de notre association qui continuera à soutenir les familles, parce qu'il y a les familles des blessés, les familles des morts, des gens qui ont été tués, ne sont pas indemnisés. Il faudrait que, de notre part aussi, faire le nécessaire pour soutenir et poser une demande à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies et qu'au moins au niveau international puisse avoir un soutien et puis une pression sur le gouvernement péruvien pour qu'il ne ferme pas les yeux sur la situation qui s'est provoquée. Merci Odile.
Merci Ronald Bustamante et bien on espère que tout va s'arranger si c'est possible pour le Pérou et les Péruviens avec ce combat qui semble sans fin, mais on espère en tout cas que ça va s'arranger.
Merci.
Bonne journée et cette émission sera en ligne dans la journée, disponible pour des rediffusions.